Bonsoir, bienvenue aux archives départementales de Loire-Atlantique. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Christophe Patillon, directeur du Centre d'Histoire du Travail. Le Centre d'Histoire du Travail est une association avec laquelle nous travaillons depuis quelques années, dont nous accueillons quelques conférences et qui a pour mission de collecter notamment des archives de militants syndicaux, politiques, et qui se trouve sur l'île
de Nantes.
De Nantes.
Là où tourne un éléphant très connu.
Voilà. Et donc je passe la parole très rapidement à Christophe Patillon qui va nous parler donc de l'affaire du Drény. C'est une affaire qui a défrayé la chronique à l'époque. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations, je crois, de paysans. Donc voilà, on est dans l'actualité.
On est dans l'actualité, tout à fait. Donc le Centre d'Histoire du Travail, un centre d'archives dédié aux archives du mouvement ouvrier paysan. Donc le travail que je vais vous présenter ce soir, humble travail, n'est-ce pas, repose beaucoup sur les archives disponibles au Centre d'Histoire du Travail, sur un travail qui a été effectué par un ancien collègue qui est assez connu, qui s'appelle René Bourrigaud, qui a écrit... quelques livres sur le mouvement paysan, et il avait dans l'idée de faire un livre sur cette affaire-là. Il n'a pas mené le travail à son terme, mais il m'a filé ses notes. Voilà. Et puis, également, j'ai eu la chance de pouvoir consulter un dossier qui est conservé pieusement ici, voilà, et qui a pu m'aider aussi à éclairer quelques points. Voilà. Alors, je suis donc historien de formation, je n'ai pas la science infuse. Voilà. Je sais qu'il y a deux personnes qui sont venues me voir en disant qu'elles avaient vécu directement ou indirectement les événements. Donc, s'ils souhaitent intervenir à la fin de mon propos, n'hésitez surtout pas. Hein. Échangeons entre nous, etc. Nous sommes là pour échanger nos savoirs. Voilà. Alors, je me fais accompagner par cette chose-là qu'on appelle, je sais, comment on appelle ça ? C'est un PowerPoint, le célèbre PowerPoint. Alors, je vais essayer d'appuyer de façon pof, comme ça, vous voyez. Des fois, je serai en retard, parfois en avance. Voilà. Mais il semblerait que maintenant, l'éloquence ne suffise plus. Il faut de l'image. Voilà. Allez, je commence mon blabla. Nous sommes donc le 16 novembre 1969 et au Drény, petit bourg rural dépendant de la commune de Plessé, on s'affaire pour recevoir un ministre, en l'occurrence Olivier Guichard. Alors, Olivier Guichard, c'est un baron du gaullisme. Il fait partie du premier cercle qui a entouré le général de Gaulle de sa marginalisation politique en 1946 jusqu'à son retrait de la vie politique en avril 69. Conséquence, souvenez-vous, du rejet populaire de son référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Olivier Guichard fut son chef de cabinet durant la décennie 50, la fameuse traversée du désert. Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, il est devenu, en juin de cette même année 69, ministre de l'Enseignement, poste ô combien difficile, puisque nous sommes au lendemain du grand chambardement de mai-juin 68, qui a vu la chienlit remettre en question toutes les formes d'autorité. Olivier Guichard est également un tout jeune notable départemental, puisqu'il cumule le poste de maire de sa commune de naissance, Néac, en Gironde, avec celui de député de la Loire-Atlantique depuis 1967. Il a été parachuté pour remplacer Pierre Litou, un gaulliste historique, député depuis 1962 et surtout maire de Saint-Lifard depuis 1929. Pourquoi donc est-il prévu qu'il se rende au Drény ce jour-là ? Eh bien parce qu'il doit présider une cérémonie officielle en hommage aux anciens de l'Afrique française du Nord, l'AFN, notamment ceux qui étaient sous les drapeaux lors de la guerre d'Algérie. Problème de taille, pour le pouvoir, il s'agit non d'une guerre mais d'une pacification et à ce titre, les anciens de l'AFN ne peuvent être considérés comme des anciens combattants avec tout ce que cela peut apporter. Pour ces derniers, ces cérémonies d'hommage et de souvenirs sont une façon d'exister en tant qu'acteurs de la société civile et une façon de faire pression sur l'État pour faire avancer leurs revendications. Du côté gaulliste, on cherche en fait à soigner tout autant une clientèle électorale importante qu'à se rabibocher avec une frange de la droite conservatrice qui considère que De Gaulle a trahi en abandonnant l'Algérie. Le député ministre a prévenu que son hommage aux anciens de l'AFN serait éclair, 30 minutes, pas plus, car il est attendu à Nantes. Il ne se doutait pas qu'un fort groupe de jeunes paysans en colère et imprégnés de l'esprit rebelle de 68 avait un autre programme en tête. Là, je vous ai mis deux photos qu'on peut retrouver, deux documents qu'on peut retrouver au Centre d'Histoire du Travail. Cette image, cette photographie où on peut lire CFTC égale traître à l'Algérie française. Voilà. Le tract à côté hein, de la CFTC qui proclame la paix en Algérie. On le voit, hein, dans, notamment autour de la CFTC, du syndicalisme chrétien, etc. Il y a des gens qui ont soutenu la revendication d'indépendance algérienne ou plutôt le combat pour la paix en Algérie de façon très tôt. Hein, et ça leur est reproché par les partisans de l'Algérie française. Là encore, un autre document qu'on peut retrouver au Centre d'Histoire du Travail, hein, cette alerte aux Républicains, publiée par un nombre important d'organisations de gauche de l'époque, syndicats ou organisations politiques, hein, qui se mobilisent donc contre ce qu'ils appellent le coup d'État de mai 58 du général de Gaulle. Là encore, d'autres photos. La célèbre affaire du métro Charonne, hein, manifestation à Paris, des militants de la CGT et du Parti communiste sont attaqués par la police. Ils essaient de se réfugier dans une bouche de métro, mais les portes sont fermées, hein, les grilles sont baissées. Et donc, sous la pression, il y a 8 ou 9 personnes qui vont être asphyxiées, ils vont mourir d'asphyxie, alors que d'autres sont en train d'être matraqués par les gendarmes. Parmi les victimes, Anne-Claude Godot, qui est nantaise, hein, qui était une jeune fille du coin, qui était partie, qui était postière et qui était partie faire son travail à Paris. Voilà. Donc elle est restée longtemps et pendant longtemps, je ne sais pas si j'ai mis la photo, non, pendant longtemps, cette Anne-Claude Godot, le mouvement ouvrier a tenu à célébrer sa mémoire et tous les ans. Et ça se fait encore ? Encore, voilà. Avec de moins en moins de monde, en effet, mais ouais, ouais. Donc c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Alors, où en étais-je ? Reprenons mon laïus. Donc. Alors, lorsque la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA, voit le jour au mois de juillet 1945, elle confie son sort à des personnalités qui ont joué un rôle central dans la corporation paysanne pendant la Seconde Guerre mondiale. Des gens qui n'ont jamais caché leur soutien et leur affection au maréchal Pétain. Soutien, précisons-le, qui ne fait pas d'eux forcément des partisans farouches de la collaboration. Pétain aimait les paysans, hein, Dieu, l'ordre et cette terre qui ne ment pas, disait-il. Il était pour beaucoup l'homme providentiel dont la France vaincue avait besoin pour sortir de l'ornière. La collaboration avec les Boches, les réquisitions affameuses, n'étaient que la conséquence fâcheuse pour nombre de paysans de la défaite militaire. C'est pourquoi aussi l'épuration n'a pas touché beaucoup le syndicalisme paysan. Alors, qui reprend les rênes en 1945 du syndicalisme paysan qui va nous intéresser aujourd'hui ? Il y a, par exemple, le président Albert Boucher, 1888-1965, agriculteur à Montbert, commune dans laquelle il est impliqué politiquement, puisqu'il est conseiller municipal depuis 1924. Il sera également sénateur indépendant et paysan, de 1959 à 1965. Un sénateur extrêmement discret, si l'on en croit René Bourigaud, puisque René a été fouillé les comptes rendus officiels, il n'a jamais trouvé une prise de parole d'Albert Boucher lors des séances du Sénat. Voilà. À ses côtés, on trouve d'autres personnages, le secrétaire général Louis Thébault, paysan à Éric, qui est apprécié par beaucoup parce qu'il est très modéré, il a l'âme rassembleuse. Ce qui n'est pas du tout le cas du troisième larron, le très droitier Henri Robichon, ici, mort à 101 ans en 2001, qui est un paysan bougnésien, qui est le promoteur des coopératives agricoles, qui est un maréchaliste de la première heure, défenseur de l'empire colonial, tribun redouté, réputé, qui fera une carrière politique brillante puisqu'il sera maire de Bouguenais de 1947 à 1971. Il sera également conseiller général de 1951 à 1964 et député indépendant et paysan en 1958. René Bourigaud encore a interviewé longuement Henri Robichon quand Henri Robichon avait 95 ou 96 ans et tout. Et Henri Robichon continuait à parler non pas de la commune de Bouguenais, mais de la paroisse. Voilà. Et pour lui, ça avait énormément de sens. Alors, ces trois hommes sont tous trois catholiques, conservateurs, et ils entendent préserver le syndicalisme paysan des bouleversements politiques et sociaux de la libération. De toute façon, rares sont les paysans qui, tel Auguste Viaud, ici, de Vieille Vigne, défenseur obstiné des fermiers et métayers, eh bien, rares sont ceux qui votent à gauche. Hein. Auguste Viaud, il est chrétien, mais il vote communiste, etc. Et c'est une figure un peu singulière du monde paysan de Loire-Atlantique. Au début des années 60, il y a une nouvelle génération qui arrive aux affaires. Elle est pour l'essentiel issue de la jeunesse agricole catholique, ce formidable outil de formation de cadres et d'animateurs syndicaux acquis à la modernité. C'est dans ce creuset que les militants apprennent à être fiers d'être un paysan moderne, à être fier de nourrir l'humanité, fier de se passionner pour les évolutions techniques, les engrais, la mécanisation, etc. C'est là qu'ils apprennent également à flétrir l'image du plouc aux sabots crottés, hein, cette image-là qui parcourt notamment les villes. Hein, le paysan serait un plouc, mais également un profiteur de guerre, adepte du marché noir. Également, ils essaient de répondre d'une certaine façon à l'image extrêmement négative que certains portent sur le paysan, y compris dans le monde paysan. Hein. La France serait la terre des petites exploitations qui vivoteraient en attendant la mort ou les dépeçages au moment de la transmission du foncier. Donc, cette Jacques-là, cette jeunesse agricole catholique, est à la fois un outil de promotion professionnelle et un outil d'affirmation politique et syndicale pour une jeune génération d'agriculteurs avides de changement. Comme l'écrit un sociologue qui s'appelle Sylvain Maresca, dans un livre qui s'appelle « Les dirigeants paysans » sorti en 1983, il écrit ceci: « On ne comprendrait pas comment la Jacques a pu progressivement délaisser son orientation confessionnelle pour s'occuper de plus en plus d'éducation professionnelle et plus généralement culturelle des jeunes si l'on ignorait que, dans cette après-guerre, où l'on attendait de l'agriculture qu'elle accrue sa production pour participer activement à la reconstruction du pays, l'école, avec ses cours agricoles post-scolaires et les services agricoles, était mobilisée pour combattre une pratique routinière et autarcique de l'agriculture et lui substituer des techniques modernes, une insertion dans les échanges marchands. » Voilà ce que dit donc Sylvain Maresca. Alors, cette nouvelle génération qui émerge, elle n'est pas de gauche, mais elle n'est déjà plus très à droite. Raphaël Rialan, j'ai pas mis de photo de Raphaël. Raphaël Rialan, par exemple, qui prend la suite d'Albert Boucher à la tête de la FDSEA, est un militant de la démocratie chrétienne. Ce qu'est encore ce personnage central, Bernard Lambert, qui est natif de Théillé, qui est un turbulent, un tribun turbulent. Il est député apparenté MRP entre 1958 et 1962. Il faudra attendre 1966 pour qu'il adhère au PSU, donc quelque part qu'il bascule complètement à gauche. Citons enfin comme autre personnage important de l'époque, Bernard Tarot de la Rouxière, qui rallie le Parti socialiste dans les années 70 et qui, à la veille de 1968, est déjà à la tête du Centre départemental des jeunes agriculteurs, le CDJA. Alors, là, je vous fais une longue introduction pour placer un peu le décor. Hein, je suis le spécialiste des préliminaires, n'est-ce pas ? Lorsqu'éclate le mouvement de mai-juin 68, le syndicalisme de paysans de Loire-Atlantique est déjà engagé dans une politique d'alliance avec les syndicats ouvriers. Les liens avec la CFDT sont anciens et tiennent à la fois à la souche catholique commune et au fait qu'une partie de la jeunesse rurale a abandonné le rêve de devenir exploitant agricole pour se faire ouvrière. Et quand celle-ci se syndique, quand elle rompt donc avec, entre guillemets, l'individualisme paysan, disent les cégétistes, eh bien elle choisit principalement la CFDT. Les liens avec la CGT et la CGT Force ouvrière sont plus délicats, l'anticléricalisme faisant partie de l'ADN du syndicalisme ouvrier. Mais les deux familles cégétistes se méfient également de ces paysans qui n'en demeurent pas moins à leurs yeux des propriétaires de leurs moyens de production et qui sont très attachés à le rester. Un vieux militant ouvrier, Jojo Prempart, me disait par exemple qu'il pouvait manifester avec des paysans dans la rue et les retrouver en commission paritaire où eux, en tant que CGT, ils défendaient les ouvriers agricoles contre les patrons qui étaient ces mêmes syndicalistes qui étaient dans la rue avec eux une semaine avant. Donc ça a été parfois quelque peu compliqué. Mais lentement, mais sûrement, ouvriers et paysans, via leurs organisations, apprennent à se connaître, à réfléchir et à manifester ensemble. Il faut dire que ouvriers et paysans ont un ennemi commun, la faiblesse du développement industriel de l'Ouest. Une faiblesse qui a pour conséquence que les enfants de paysans, privés localement de débouchés dans l'industrie, sont obligés de quitter l'Ouest pour trouver du travail. Alors, en février 64, ce sont plus de 70 000 personnes, ouvriers et paysans, qui se rassemblent à Nantes pour dire « l'Ouest veut vivre ». Autrement dit, l'Ouest doit se développer. Et ce fut pendant très très longtemps, jusqu'au début du siècle, je crois, la plus imposante manifestation de l'histoire sociale du département. De fil en aiguille, de réunion en réunion, de manifestation en manifestation, les organisations syndicales ouvrières, CGT et CFDT, et puis paysannes, à la fois au niveau local, départemental et régional, parviennent à s'entendre sur une plateforme revendicative à la fin de l'année 67 qui s'intitule « Programme d'action des organisations syndicales ouvrières et agricoles de l'Ouest ». Condamnant la politique gaulliste à l'œuvre depuis 1958, cette plateforme pointe du doigt le mauvais aménagement du territoire, réclame des créations suffisantes d'industries nouvelles avec financement et responsabilité publique, réclame la suppression des disparités régionales. Les salaires, les libertés fondamentales, la refonte de la fiscalité, l'abrogation des ordonnances relatives à la sécurité sociale, la réforme démocratique de l'enseignement ne sont bien évidemment pas oubliés dans ce programme électoral, d'une certaine façon, revendicatif. Par le plus grand des hasards, souvenez-vous, les organisations syndicales ouvrières et paysannes décident l'organisation d'une grève de 24 heures pour l'emploi, les salaires et la défense de la sécurité sociale, avec manifestation à Nantes, Saint-Brieuc, Lorient, La Roche-sur-Yon, Angers ou encore Brest, et ils placent une date, le 8 mai 1968. Et ils ne peuvent pas savoir à l'époque, quand ils placent cette date, que ce jour-là, une partie de la jeunesse étudiante nantaise, en ébullition, en grève déjà sur le, du côté du tertre, choisit de la rejoindre dans la rue pour demander l'impossible. Ce 8 mai 68, ce sont donc 10 000 personnes qui défilent dans la cité des Ducs. 15 jours plus tard, alors que le pays est bloqué par la grève générale, des tracteurs venant des quatre coins du département envahissent le centre-ville, occupent la place du commerce, rebaptisent la place royale en place du peuple. Nantes va vivre une nouvelle journée d'affrontement. Donc les paysans sont extrêmement présents dans le paysage social nantais en 1968. Alors, après cette longue introduction concernant le syndicalisme paysan et sa lente évolution, parlons un peu de la situation de l'agriculture dans ces années-là. L'agriculture, eh bien, elle va mal. La modernisation à marche forcée fait des dégâts et peu d'heureux. Dans les années 50, le monde paysan connaît ses premières crises de surproduction et ses premiers barrages de routes en signe de protestation. En 1953, les viticulteurs en colère du Languedoc-Roussillon organisent plus de 400 barrages sur les routes. Entre 1961 et 1963, ce sont les producteurs de pommes de terre, de tomates, mais aussi les éleveurs qui mènent des actions spectaculaires. Blocage de route, occupation d'abattoirs, déversement de produits sur la chaussée. Les agriculteurs qui veulent la stabilisation des marchés, l'indexation des prix et du soutien dans la modernisation des exploitations se tournent évidemment vers l'État pour encadrer, réguler l'agriculture nationale et internationale via la politique agricole commune entrée en vigueur en 1962. En 1964, lors d'une conférence de presse, j'ai retrouvé un discours d'Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture. Et Edgar Pisani flétrit le syndicalisme paysan bien trop revendicatif à son goût et bien peu reconnaissant du travail accompli par l'État pour développer l'agriculture française. Il écrit ceci. Ce qui est désespérant, c'est que quoi qu'on fasse, quels que soient les progrès qu'on accomplisse, quels que soient les efforts au gré desquels ces progrès sont accomplis, avant même que l'encre de la signature du décret ne soit sèche, une nouvelle revendication apparaisse. Jamais, à aucun moment, nulle part, nous n'avons eu le sentiment que le monde agricole concédait que depuis 10 ans, un effort énorme avait été fait pour lui. Jamais, à aucun moment, nous avons eu le sentiment que ces hommes savaient gré à la nation tout entière de ce qu'elle avait fait pour eux. Ce système permanent de revendication finit par rendre la revendication elle-même dangereuse pour le revendiquant. Je me tourne avec toute la force de ma conviction, m'étant battu pour ces gens comme je devais le faire, jusqu'à la limite de mes forces. Bon, magnifique. Pour leur dire, tout de même, à un moment donné, il faudra essayer de s'asseoir et de discuter pour revoir les choses et redéfinir ses objectifs. Mais ce système de feu roulant, permanent, obsédant, n'est pas un système de revendication et ne peut pas être un système de gouvernement. Je supplie chacun de comprendre qu'il ne s'agit pas là d'hostilité ni même de reproche. Il s'agit là vraiment d'une invite pressante à l'égard de ceux dont nous avons la charge pour leur dire « Tout de même, prenons le temps parfois de nous arrêter pour réfléchir. Voilà. » Très grand texte d'Edgar Pisani, qui est vraiment au bout du rouleau, le malheureux Edgar. En 1965, trois économistes spécialistes des questions agricoles, Servolin, Gervais et Veil, publient un livre qui s'appelle « Une France sans paysans », annonçant l'inévitable réduction de la population agricole, la généralisation de l'entreprise agricole à forme capitaliste classique, conséquence de la disparition de la petite exploitation. Cette France sans paysans ne signifie pas qu'il n'y ait plus d'agriculteurs, mais, selon les auteurs, que le mode traditionnel de recrutement, être paysan de père en fils, sera de moins en moins la norme dans le futur. Intuition qui se vérifie dans les faits, puisque aujourd'hui, nombre de personnes sans lien direct avec l'agriculture se font paysans. C'est ainsi donc, le paysan doit devenir un manager, patron, chef d'entreprise ou bien disparaître. En 67, ce constat est confirmé par un autre grand historien, Henri Mandras, avec son livre « La fin des paysans ». Mais 10 ans plus tôt, il avait écrit ceci. « La modernisation de l'agriculture n'est qu'une face d'un conflit de civilisation qui remet en question les fondements de la société paysanne traditionnelle, la personnalité sociale des paysans et leur vision du monde. Il ne s'agit pas d'un simple problème d'investissement ou d'éducation, mais du remplacement d'une civilisation par une autre. » Dans un mémorandum de la fin 68, devenu célèbre, Sico Mansholt, commissaire européen chargé de l'agriculture, prévient « Les petites exploitations incapables de s'adapter sont appelées à disparaître. Pour ne pas mourir, il faut s'agrandir et se mécaniser. » Or, l'agriculture de l'Ouest est marquée par la prééminence de l'exploitation familiale modeste. Le rapport de Georges Vedel, sorti en septembre 69, ne dit pas autre chose. Bref, tous les avis s'accordent pour dire qu'en cette fin de décennie, l'agriculture doit poursuivre sa mutation, voire l'accélérer. Voilà un peu le terreau sur lequel va jaillir cette affaire du Drainy. Alors, quelques photos. Bernard Tarot, lors d'une intervention syndicale. Une manifestation à Redon en octobre 67. Des agriculteurs de l'Ouest, là encore, autour de la question européenne, la politique agricole commune. Les fameux tracteurs qui envahissent le 24 mai 68 la place Royale. Alors, au premier plan ici à gauche, il y a une pancarte, etc. Et devant le tracteur, il y a le fameux place au peuple, qui sera ensuite placé sur la fontaine de la place Royale. Et puis, il va être marqué à la peinture place du peuple pour rebaptiser la place Royale. Là encore, voilà, on essaie de le voir. Sur le tracteur, c'est le camarade Joseph Potiron, paysan de la Chapelle-sur-Erdre. Petit paysan de la Chapelle-sur-Erdre, et Joseph se souvient bien sûr de ça. Et il ne se souvient pas du tout de la personne qui est montée sur son tracteur, ni de la banderole, etc. Il disait, tu sais, les pancartes, elles montaient, descendaient, etc. Voilà, image de ces manifestations paysannes impressionnantes et des manifestations de mai 68 à Nantes. J'ai mis beaucoup de photos, remarque. Voilà encore. La prise de parole. Ça, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs. Voilà. Là, image intéressante, si on parle de radicalité, les deux personnes qui tiennent cette banderole qui dit non au régime capitaliste, oui à la révolution complète de la société, rien que ça, eh bien, ce sont des paysans de Couëron. Ce n'est pas du tout des étudiants, mais ce sont des paysans. Ça montre bien l'évolution du milieu paysan et le fait qu'une fraction de ce milieu paysan se radicalise complètement. Et puis, à droite, je crois que c'est dans le Sud-Loire, lors d'un rassemblement qui précède donc cette montée à Nantes le 24 mai. Donc, c'est... Voilà. Oui, au partage du gâteau, les paysans ne se contenteront pas des miettes. Alors, je crois que c'est ça qu'on peut lire sur la pancarte. Et puis, donc, je vous ai parlé de Sico Mansholt. Voilà, donc, ce député... européen ou grand fonctionnaire européen, je ne sais plus. Et les paysans de Loire-Atlantique et de l'Ouest vont aller le chercher directement à Bruxelles. Ils vont lui dire « Ce que vous racontez est très grave pour l'avenir des paysans. Il faut que vous expliquiez devant nous. » Et Sico Mansholt, très courageusement d'ailleurs, a accepté de venir. Et donc, du coup, il va se déplacer dans l'Ouest de la France pour échanger avec les paysans, avec les syndicalistes paysans sur l'avenir de l'agriculture dans le cadre européen. Là encore, non à la société capitaliste, oui à la société socialiste, etc. Et voilà, on en arrive enfin au Drainy. Mais bon, la route n'est pas forcément facile à trouver, vous en conviendrez. Alors revenons au Drainy. Ce bourg, donc dépendant de la commune de Plessé, fait partie pour le syndicalisme paysan du secteur de Blain et Redon. C'est un secteur qui est réputé pour le dynamisme de ses équipes syndicales. Il fait également partie de la seule circonscription rurale gagnée par la gauche, la SFIO, en Loire-Atlantique. Georges Carpentier y a succédé à François Blanchot, l'historique maire de Saint-Nazaire, en 1967. Bref, le terreau, quand même, est favorable. Les jeunes paysans du canton, souvent aides familiaux, sont en effet très remontés. 68 est passé par là. Les temps sont à l'insubordination et à la remise en cause de l'ordre des choses. On conteste tout autant les aînés, dont le modérantisme politique et syndical exaspère, que les élites politiques de droite conservatrices ou bien les élites syndicales installées dans les instances de concertation. Les jeunes paysans veulent des actions qui marquent les esprits. Ils veulent être acteurs et non plus simples masses de manœuvre. Très rapidement, donc, pardonnez-moi, le CDJA de la région Blain-Redon décide de se saisir de la présence d'Olivier Guichard pour poser une critique radicale de la situation de l'agriculture. Une réunion se tient le 13 novembre à la maison familiale de Plessé. La vingtaine de militants présents décident de pousser Olivier Guichard à visiter une ferme de la région, une exploitation capable d'incarner la situation difficile de l'agriculture locale. Les militants du Dreny présents proposent alors que ce soit la ferme d'Edouard Couedel, située à Kermaria ou Kermariane, et qui a le bonheur d'être à peu près à 800 mètres seulement du bourg. Alors, l'initiative devant être secrète, les organisateurs ne rédigent pas d'appel à rassemblement. Cependant, un tract est réalisé et sera distribué au moment de l'action. Il aura pour titre significatif « Les ministres paradent alors que nous, paysans, ouvriers, commerçants, sommes les victimes de leur politique ». Remarquable, j'ai bien travaillé, j'ai réussi à mettre le tract. Ah ben vous arrivez à le lire, il est beaucoup plus lisible chez vous que pour moi. Voilà le fameux tract qui est distribué. Ce tract pointe trois problèmes essentiels. La difficulté d'accès aux prêts bancaires pour les paysans qui n'ont pas les reins assez solides. La difficulté pour les paysans chassés de l'agriculture de se reconvertir du fait de la crise de l'emploi industriel. Et puis la baisse des crédits accordés pour le remembrement. La mobilisation, elle, il est décidé qu'elle se fera bien sûr par le bouche à oreille, chaque militant s'occupant d'informer sa zone. Rappelons-le, dans les campagnes de la Loire-Atlantique, le téléphone est encore extrêmement rare. Et les militants qui m'ont raconté ça me disaient tout simplement, et tout le temps on passait notre temps, soit en voiture, soit en mobylette, et on passait de ferme en ferme, on passait le mot, etc. etc. Il y avait tout un système qui permettait de tenir au courant la masse des paysans des actions à venir. Alors le 16 novembre, à 11h, la cérémonie commence. On verra ça plus tard. La cérémonie commence, gerbe de fleurs déposées, remise du drapeau pendant la sonnerie aux morts, minute de silence, recueillement. Plus d'une cinquantaine de jeunes paysans se sont regroupés un peu à l'écart. Évidemment, les autorités préfectorales qui sont là pressentent que ces paysans ne sont pas là par hasard. Et très vite, donc, un échange a lieu entre le sous-préfet et le groupe. Les seconds, les paysans, affirment vouloir parler au ministre. Le premier leur promet un échange court avant le vin d'honneur. Viennent les discours, etc., et les tractations se poursuivent. Les manifestants, calmes, qui n'ont comme prévu pas perturbé la cérémonie, informent le sous-préfet qu'ils veulent désormais proposer au ministre de visiter une ferme. La tension monte quelque peu, Olivier Guichard est interpellé, accepte-t-il oui ou non d'aller à Kermaria constater de visu les difficultés d'existence des paysans locaux ? Alors, le sous-préfet, évidemment, suggère au ministre de faire intervenir tout de suite les gendarmes, dont le nombre est suffisant, selon lui, pour repousser les manifestants qui sont en gros, au nombre de 200. Mais Olivier Guichard refuse. Il veut bien recevoir une délégation, mais quand il entend les jeunes paysans crier « le ministre au champ », eh bien, alors il accepte finalement de se rendre à la ferme, tout en prévenant qu'il n'a qu'un quart d'heure, un seul quart d'heure à leur proposer. Ce qui est évidemment bien peu quand on a déjà près d'un kilomètre à accomplir à petits pas. Dans une ambiance un peu plus électrique, un singulier cortège donc s'apprête à prendre la route de Kermaria. C'est alors que quelques pancartes revendicatives apparaissent. « Combien de fils d'agriculteurs en fac ?» dit l'une. Donc elle s'en prend évidemment à la nature du système éducatif français qui favorise les héritiers et la reproduction sociale. « Moins de médailles, plus de crédits », cette pancarte fustige la politique du crédit agricole qui n'aide pas suffisamment les jeunes paysans à s'installer, à moderniser leur outil de travail. Mais c'est la dernière, la plus agressive, qui va poser problème. Le texte est en effet très sarcastique. Pour lutter contre les ennemis de l'agriculture, Guichard et sa clique, et là il cite deux personnes, Geffriot, notaire, maire de Plessé, et Châtelier, l'adjoint de Geffriot, qu'il traite de maquignon et autres charognes, utiliser des bourgeoisants jacoux. Le dessin est explicite, vous essayez de le deviner là. Un paysan tranche la tête d'un notable. Alors évidemment, à sa vue, Olivier Guichard refuse d'avancer. Il le dit clairement au militant, il s'appelle Paul Rouleau, qui tient fermement la pancarte. « Jamais je ne marcherai devant cette pancarte ». Et Paul Rouleau lui répond en le tutoyant « Si tu ne veux pas marcher devant, eh ben tu marcheras derrière ». Et voilà la foule des manifestants, compacte, qui pousse Olivier Guichard en direction de Kermaria. Le maire Geffriot est lui aussi visé et quelque peu bousculé lorsqu'il entreprend évidemment de se saisir de la séditieuse pancarte. Alors, le débourgeoisant jacou. Souvenez-vous, mais moi-même j'en souviens, je suis né en 1965, je sais, ça ne se remarque pas, mais bref, Passons. Je suis né en 65 et je me souviens de cette affaire de Jacoule Croquant. Alors, on a dû le voir à la maison ou je ne sais quoi où ça a été rediffusé. Jacoule Croquant est donc invoqué dans ce happening en 69 parce que c'est Stelio Lorenzi, qui est scénariste, réalisateur, très lié au Parti communiste, hein, qui a réalisé une mini-série sur ce personnage de roman populaire. Jacou, fils d'un couple de métayers, victime d'injustice. Jacou, orphelin très tôt, recueilli par un curé qui l'éduque. Adulte, il jure de venger ses parents humiliés et trépassés du fait des agissements de l'horrible comte de Nansac qui règne en maître dans ce coin du Périgord. Nous sommes dans la première moitié du XIXe siècle, la Révolution française est encore dans les mémoires, mais elle n'a rien changé au rapport de domination dans les campagnes. Invoquer Jacou, ce croquant organisateur d'une jacquerie, s'est appelé de fait de nouveau, en 1969, les paysans à faire la guerre au château pour vivre en paix dans leur chaumière. Voilà la signification profonde. Alors, arrivé à la ferme, les prises de parole se succèdent. Il y a d'abord Édouard Couédel. Le problème d'Édouard Couédel, ce paysan qui est censé incarner le paysan, petit paysan en difficulté, il est extrêmement intimidé et mal à l'aise. Il n'arrive pas trop à s'exprimer. Il rencontre un ministre, ce qui n'est pas rien. Et puis Olivier Guichard, c'est Michel Jobert. Vous voyez Michel Jobert, physiquement, il n'impressionne pas. Mais Olivier Guichard, c'est une stature, c'est quelqu'un d'important. Donc Couédel, il expose avec vraiment beaucoup de peine sa situation, etc. Et bien vite, il est relayé par d'autres. Il y a des militants qui ont l'habitude de prendre la parole en public, qui sont à l'aise avec l'art oratoire. Il y a François le Gentilhomme, qui lui s'occupe des jeunes agriculteurs du secteur de Blain-Redon, celui qui est justement mobilisé. Il y a Bernard Tarot, hein, qui a un poste important au CDJA, et y compris au niveau régional. Il y a un autre militant du CDJA, Joseph Cassard. Il y a Yves Rajalu, qui lui va intervenir sur l'enseignement supérieur. Et puis il y a enfin Jean Bréheret, qui est le président officiel du CDJA à l'époque. Et tous s'en prennent, tous s'en prennent aux promesses non tenues du pouvoir, au difficile accès aux prêts. Alors ici, par exemple, il y a un extrait qu'on retrouve dans la presse. On ne prêtera plus qu'à ceux qui auront les reins solides. Ils s'en prennent au manque d'emploi et au licenciement dans l'industrie, à la politique foncière, à la faiblesse des structures d'enseignement public dans les campagnes. À l'époque, l'école publique est extrêmement rare, il faut se battre et beaucoup de militants qui ont viré à gauche vont faire du combat pour l'école publique, laïque, etc. Un combat extrêmement fort de leur militance. Voilà. Alors le ministre, que fait Guichard? Le ministre, il répond notamment sur les questions locales parce qu'il maîtrise bien ses dossiers, il est député de la circonscription voisine, mais évidemment, il a beau s'exprimer, ses propos sont couverts par les huées, etc. Alors au bout de trois quarts d'heure, il essaie de quitter les lieux. La gendarmerie intervient pour lui permettre de le faire. Et là, du coup, il y a des œufs, des mottes de terre grasse et même de fumier qui sont lancés. Une sorte de bousculade s'ensuit. Mais, précisons-le, aucun coup n'est échangé. Olivier Guichard parvient quand même à refaire le chemin en sens inverse. Et il est 12h35, selon le rapport officiel, quand enfin il prend la route direction Nantes. Et durant ce voyage du retour, le maire Geffriot, le notaire Oni, gros propriétaire terrien, eh bien lui, il subit les quolibets et les gestes d'irrévérence et d'humiliation. Par exemple, un manifestant lui coupe les bretelles de son pantalon, ce qui l'oblige à le retenir avec ses mains tout au long du voyage retour. Donc, acte fort et humiliant. Et le coupable, d'ailleurs, s'en expliquait. Il a dit « ça n'a pas été méchant, mais c'était pour blesser sa personne, ce qu'il méritait bien parce qu'il a tellement blessé de gens ». Ça nous aide beaucoup sur les relations dans ce coin-là entre Geffriot et puis les paysans. Alors, voilà, on le voit là, Olivier Guichard, donc il se rend à Kermaria. Oui, il n'y a pas énormément de monde, mais le monde doit arriver sans doute derrière. Voilà. Alors, interrogé par la presse à son retour à Paris, Olivier Guichard joue la carte de l'apaisement. Il dit, ayant étudié la veille avec les dirigeants de la FNSEA, les vrais problèmes posés à l'agriculture moderne, je ne pense pas qu'il fût utile d'y revenir dans le cadre de cette journée dominicale. Une manifestation de ce style fait plus de mal que de bien à la cause agricole, si j'en crois les réactions de tous ceux qui m'entouraient, maires ou conseillers généraux, qui sont évidemment de bons conseils, vous le comprendrez. Pour le ministre Olivier Guichard, les dirigeants nationaux de la FNSEA sont les seuls interlocuteurs légitimes. Le célèbre préfet Jean-Émile Vier, de son côté, annonce que l'affaire ne sera pas sans suite. Et il tient promesse. Même si pour cela, il demande au Premier ministre d'intervenir pour convaincre le procureur de Saint-Nazaire, qui lui est plutôt un partisan de l'apaisement. Jean-Émile Vier est du genre droit dans ses bottes. S'il est en poste en Loire-Atlantique, il le doit à Guichard lui-même. Et le 13 mai 68, en plein tumulte, notre préfet a téléphoné au ministre de l'Intérieur pour obtenir l'autorisation de faire feu sur les manifestants émeutiers, autorisation qui lui fut refusée. Souvenez-vous, à l'époque, le 13 mai, la préfecture est attaquée par les étudiants, etc. Et là, du coup, en effet, Vier considère que la préfecture va tomber entre les mains des séditieux, il faut arrêter tout de suite le désordre, etc. Heureusement, à Paris, c'est Fouché, à l'époque, qui lui répond ne vous inquiétez pas, ne sortez pas la Kalachnikov, essayez de partir par une voie dérobée, et si vous êtes vraiment dans la difficulté, rendez-vous à Châteaubriand pour vous protéger, etc. Finalement, l'intervention policière va sauver, entre guillemets, la préfecture, et l'affaire en restera là. Alors, donc Vier a envie de régler ses comptes avec cette chienlit. Hein. Voilà, il a été bafoué un peu en 1968, il n'entend pas être de nouveau bafoué en 1969. Et dès le lundi, 15 personnes sont interpellées et entendues par la gendarmerie. Finalement, 3 sont mises en garde à vue et inculpées. Ils sont pour nom Jean Martin, un gars de Garouette qui est né en 1947, François Le Gentilhomme, dont j'ai parlé tout à l'heure, né en 1945 à Sainte-Anne-de-Cambon, et le vétéran Jean Bréhéré, né en 1940 à Orvault. Alors, Jean Martin n'est pas paysan, mais animateur salarié du CDJA et syndiqué à la CFDT. Et évidemment, immédiatement, il reçoit le soutien de son syndicat. Jean Bréhéré, lui, est le président du CDJA, François Le Gentilhomme. J'ai écrit une bêtise. Jean Bréhéré et François Le Gentilhomme, pardon, sont des militants importants du cercle des jeunes agriculteurs. Alors, évidemment, cette inculpation, cette mise en prison de ces militants, met le peuple, le monde paysan en émoi. Mais si on condamne la répression d'une action syndicale certes vive, on n'en tire pas les mêmes conclusions. Certains, par exemple, plaident pour que l'affaire reste celle des seuls paysans. Et c'est le cas de Michel de Baptiste, secrétaire général de la FNSEA, incarnation parfaite de cette nouvelle génération de paysans modernistes parvenus aux affaires. Il est passé ainsi de la tête de la jeunesse agricole catholique à la direction du Centre national des jeunes agriculteurs, puis à la tête de la FNSEA en 1966. Lui, il est resté vraiment dans la lignée, etc. Il n'a pas rompu les amarres. Donc, c'est un militant de centre-droit. Il se réclame de la démocratie chrétienne. Et de Baptiste, comme ceux qui l'entourent, voit d'un mauvais œil une partie des troupes paysannes échapper à sa férule et plaider pour une alliance des exploités des villes et des champs contre l'ordre capitaliste. Face à eux se dressent des militants autour de figures, on l'a vu tout à l'heure, comme Bernard Lambert, qui voit justement dans l'incarcération des 3 militants une opportunité de faire revivre l'unité ouvrière et paysanne contre la droite propidolienne. Et ce sont eux qui vont l'emporter. Alors il faut agir vite. Arrêtés le lundi, les 3 militants passent devant le Jules dès le lendemain, non pour violence, mais pour avoir joué un rôle actif dans l'organisation de la manifestation. Pour leur défense, ils disent avoir été dépassés par les événements et s'être montrés incapables de calmer leurs troupes. Ce qui ne convainc guère le ministère public, pour qui seule l'intervention de l'escadron de gendarmes mobiles a permis au ministre de quitter la ferme. Le témoignage de Michel Rabreau, pharmacien de son État, député de Loire-Atlantique, va dans le même sens. D'un côté, et il souligne le caractère amateur de l'initiative. Il écrit « Le groupe n'était ni représentatif ni ordonné, les responsables, entre guillemets, n'organisaient ni la discussion ni leurs troupes. » Mais de l'autre, il laisse entendre que le ministre a échappé au pire. Il écrit « Quand le ministre a décidé de partir, des scènes violentes ont eu lieu. La gendarmerie a empêché qu'elles ne dégénèrent gravement. N'avait-on pas constaté contre un mur de la cour de la ferme beaucoup plus de fourches que ne pouvait en user le fermier de Kermaria. » Procès rapide, expéditif, qui se conclut par 3 condamnations à 2 mois de prison ferme et 5 ans de mise à l'épreuve, tandis que 2000 personnes manifestent en ville leur solidarité. Alors évidemment, la télévision s'est fait l'écho, et cela met très en colère le préfet. Il écrit au bureau régional de l'ORTF, dans un document qu'on peut retrouver ici, il écrit au bureau régional pour se plaindre de la façon dont le procès a été relaté par les journalistes, traitant ceux-ci d'agents de transmission de mots d'ordre ou d'appels contraires à l'ordre public et à la loi, puisque tout simplement ces journalistes ont donné la parole aux organisations syndicales. Par retour de courrier, l'ORTF regrette la légèreté des 2 journalistes et lui assure son plein soutien. Rappelons qu'à l'époque, l'ORTF n'est pas un organe indépendant du pouvoir politique, mais c'est un organe aux ordres du pouvoir. À la différence, bien sûr, d'aujourd'hui, où le monde entier nous envie la pugnacité de nos présentateurs vedettes. Alors, Dans la foulée de ce jugement, dont la sévérité surprend les syndicalistes, des discussions s'engagent entre organisations pour mettre sur pied une riposte unitaire. Elle prend la forme de 3 manifestations appelées pour le samedi 24 novembre, jour du procès en appel à Rennes. Manifestations auxquelles la FNSEA n'appelle pas. Dans un communiqué du 20 novembre, elle soutient les agriculteurs condamnés, elle exige leur libération. Elle soutient la FDSEA 44 et la Fédération régionale. Elle rappelle ses revendications essentielles et elle s'en tient là. Elle entend maintenir son combat sur un plan strictement professionnel et comme elle l'a toujours fait, elle ne cautionnera, dit-elle, que les actions menées par les FDSEA et réalisées en accord avec elle. Pas question donc de participer à une riposte large avec les syndicats ouvriers et peut-être même la participation de la chienlit 68arde. Le CNJA, de son côté, il ne peut adopter une telle position. Il est obligé de se positionner puisque ce sont ses membres qui sont emprisonnés. Mais il fixe l'enjeu de cette journée de mobilisation. Il convient de prévoir des actions intelligentes. Doivent être exclues à cet égard des opérations peut-être spectaculaires, mais préjudiciables pour l'avenir, comme le déversement de fumier ou de tout autre détritus en ville. Alors, à Saint-Nazaire, ce 24 novembre, 2000 personnes, pour beaucoup des métallurgistes d'ailleurs, défilent dans la ville et assistent aux prises de parole de militants assez connus, Jean Cadio par exemple, qui est aujourd'hui décédé, Bernard Lambert. Alors Jean Cadio, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a son fait d'armes, c'est une grève de la faim devant le Crédit Agricole. Je ne m'en souviens plus de l'année, mais Jean, était un paysan qui très endetté, et donc il avait mené cette action, et ça avait permis de mettre sur la place publique la question du surendettement des paysans. Il y a également Bernard Lambert qui prend la parole à Saint-Naz. Les renseignements généraux nazériens notent cependant que le divorce semble fort entre les anciens et les jeunes du CDJA, comme quoi cette action a semé le trouble parmi les troupes paysannes. À Nantes, ils sont 6000 paysans, ouvriers et fonctionnaires à marteler le pavé contre la répression et à écouter à la fois Bernard Degnaud pour les jeunes agriculteurs, Henri Baron de la FDSEA, un dénommé Louis qui représente la Fédération de l'Éducation nationale, Jojo Prempart, Alexandre Hébert et Mabi de la CFDT. Et à Rennes, où il y a le procès en appel, ils sont 2000 à parcourir la ville, avec notamment des délégations paysannes venues d'une vingtaine de départements. Et n'oublions pas une floraison d'initiatives de soutien à travers la France. Par exemple, dans le Lot, les syndicalistes présents lors d'une réunion de la Mutualité sociale agricole quittent ostensiblement la salle quand le préfet monte à la tribune. Dans le Jura et le Vaucluse, des paysans bloquent des routes. En Saône-et-Loire, d'autres paysans perturbent la remise des prix du concours général de la race charolaise. Bien souvent, ce sont des manifestations calmes, hormis à Alençon, où des jeunes paysans s'en prennent à la préfecture. Alors, pour bien comprendre un peu tout cela, j'ai retrouvé un document du CDJA, donc des jeunes agriculteurs du Morbihan. Et pour montrer pourquoi ça se mobilise un peu partout en France autour de ces questions-là, c'est que, pour le CDJA du Morbihan, le jugement initial, donc cette condamnation à de la prison avec sursis et à une mise à l'épreuve, c'est tout simplement un aveu de faiblesse de l'État. Ils écrivent « Le capitalisme ne veut pas se laisser acculer à la faillite qui se prépare. Il se défend par des méthodes répressives dignes du fascisme. » Dignes du fascisme. Hein. Ces mots nous rappellent qu'un an plus tôt, évidemment, des foules immenses scandaient CRSSS, voyant De Gaulle un dictateur et établissaient un parallèle provocateur entre Radio Paris et l'ORTF. Ce thème, d'ailleurs, de la fascisation de la République française sera très largement développé par une partie de l'extrême-gauche, notamment maoïste, dans la première moitié des années 70. Alors, évidemment, ce n'est évidemment pas l'avis du préfet, notre ami Jean-Émile Vier, qui, dans une lettre datée du 24 novembre, adressée à tous les conseillers généraux et maires de Loire-Atlantique, parle de dialogue forcé, de guet-apens, de méthodes subversives, de slogans révolutionnaires ou insultants de toute nature, précisant que rien ne justifie l'emploi de ces formes de violence puisque nous jouissons, je cite, d'une très large gamme de moyens légaux pour exprimer nos légitimes revendications. La missive très vindicative du préfet ne laissera pas d'ailleurs indifférentes les organisations syndicales paysannes parce qu'elles-mêmes vont reprendre la parole à leur tour, vont reprendre la plume plutôt, pour rétablir, disent-ils, les faits, faire entendre leur vérité et rappeler la profondeur du malaise paysan. Et ils vont de nouveau envoyer une lettre aux maires et conseillers généraux pour donner le point de vue des organisations. La condamnation, elle est confirmée par la cour d'appel de Rennes, mais au lieu de 2 mois de prison ferme, les inculpés écopent de 4 mois de prison avec sursis. Les inculpés, après une semaine de prison, sont donc remis en liberté et décident sans tarder de porter l'affaire en cassation, par principe, au nom de la défense de la liberté syndicale. Par principe, je dis, parce que j'ai eu beau questionner les archives et surtout les acteurs de l'époque, aucun ne se souvient de ce qu'il est advenu de cette démarche. Les archives n'en disent rien. Alors moi, je ne suis pas un juriste du tout. Est-ce que ça s'est perdu, etc. Tout ça a été oublié. En tout cas, ça ne réapparaît pas dans les archives. Donc je ne sais pas s'il y a eu un procès en cassation. A priori, non, selon les acteurs de l'époque. Alors, voilà les personnages en question, donc les trois jacous de Loire-Atlantique, hein, Bréhet, Martin et le gentilhomme, hein, qui sont passés en procès. Qu'est-ce que j'ai pu mettre ? Manifestation de soutien aux emprisonnés, avec cette très jolie banderole. Guichard a enfin pris contact avec l'agriculture. Avec la culture, pardon, excusez-moi. Le tract signé du CDJA et de la FDSEA, nos responsables syndicaux sont en prison, etc. Long tract. Manifestation, là encore, dans les rues de la ville. Vous reconnaissez l'endroit, j'imagine. La présence ouvrière à la manifestation. Oui, quand on regarde, vous avez donc Alexandre Hébert qui tourne à la tête vers la droite. Joseph Vindels de la CGT, Jojo Prempart, qui porte sa veste sur le avant-bras, et Gilbert Declerc. Voilà. Il a un numéro spécial de Vent d'Ouest, hein, où les inculpés et emprisonnés, entre guillemets, expliquent ce qu'ils ont vécu en prison, ce qu'ils ont vu, etc., et le sens du combat. Voilà. Alors, vient l'heure de la conclusion. Lors du conseil d'administration de la FDSEA, tenu le 13 décembre 1969, un échange a lieu à propos de cette affaire du Drény. La question centrale que se posent les militants est la suivante, elle est simple. Ce type d'action directe est-il de nature à radicaliser la masse paysanne ou à la détourner de la lutte syndicale ? Jusqu'où aller trop loin ? Voilà. Un dénommé Ross, je cite, hein, souligne l'écart grandissant dans certaines communes entre les équipes de militants prêts à l'action et une masse d'agriculteurs beaucoup plus difficile à entraîner. Précédemment, un autre militant qui s'appelle Louis Miot avait noté, je cite, « l'attitude de certains agriculteurs aînés qui contestent les actions menées par les jeunes, tout en précisant ensuite qu'après une bonne information, les critiques sont moins violentes ». Et il préconise d'ailleurs que cette démarche explicative soit menée dans toutes les communes. Il faut donc faire de la pédagogie. Mais même sans cela, Bernard Lambert précise que les militants qui ont mené des actions dernièrement ne sont pas toujours déjugés par les agriculteurs. Ceux qui ont en effet milité dernièrement ne sont pas les plus mal réélus aux élections syndicales actuelles, bien au contraire. Mais pour les dirigeants de la FDSEA, il n'est pas question de dévier du chemin pris sous la pression des modérés partisans d'un syndicalisme de délégation ou de dialogue social. Du côté des jeunes, en revanche, l'unité de la profession n'est plus un objectif central. D'autant que c'est sur sa nécessité supposée que les syndicalistes conservateurs ont bâti leur hégémonie localement et nationalement. Les temps ont changé. Lors de l'Assemblée générale du Centre régional des jeunes agriculteurs de l'Ouest, le rapport du Conseil d'administration est sans ambiguïté sur cette question. L'unité syndicale dans une organisation rassemblant tous les agriculteurs, ceux qui bénéficient et ceux qui sont victimes de l'évolution libérale, ne peut être considérée ni comme un objectif, ni comme un moyen primordial. Elle ne peut être que tactique, dans la mesure où elle s'exprime en faveur des plus défavorisés, dans la mesure où elle permet de mettre en œuvre les moyens pour résorber les disparités au sein de la profession. Voilà, vous le voyez, en fait, les paysans radicalisés de la Loire-Atlantique sont prêts à s'émanciper structurellement et non plus seulement idéologiquement. Jojo Prempart, dirigeant des métaux CGT et futur secrétaire départemental de cette même CGT, a bien connu cette gauche paysanne en formation. Il a débattu à plusieurs reprises avec Bernard Lambert. Il a critiqué son livre célèbre, hein, « Les paysans dans la lutte des classes », sorti en 1970 aux éditions du Seuil. Lui, il refusait de considérer les paysans comme des prolétaires, comme le faisait Bernard Lambert, du fait de leur soumission aux banques et aux industries agroalimentaires. Mais il était favorable aux alliances entre ouvriers et paysans, même s'il trouvait que Bernard Lambert idéalisait les paysans, les voyait plus à gauche qu'ils ne l'étaient réellement dans leur masse, disait Jojo. Il lui reprochait de vouloir faire courir les paysans alors que ceux-ci venaient à peine de commencer à marcher. Voilà. On a fait un livre sur Jojo Prempart, une biographie, et c'est un passage qui m'a beaucoup marqué, hein, quand il expliquait par cette image. Par cette image, en fait, Jojo, il soulignait le risque d'isolement qui guettait une gauche paysanne trop impatiente et bout de feu. Hein. à force d'aller trop en avant, d'être trop à l'avant-garde, on se retourne derrière, on ne voit plus personne, parce que la masse, elle, elle n'a pas suivi. Alors, ce risque-là, ce risque de l'isolement, eh bien, la gauche paysanne le prend quand même en partant à l'assaut, sans succès d'ailleurs, de la direction du Centre national des jeunes agriculteurs lors d'un congrès à Blois en juillet 1970. Elle le prend en s'appelant paysan-travailleur, en publiant journaux et bulletins intitulés « Paysans en lutte » ou encore, on l'a vu ici, « Vent d'Ouest ». Elle le fait encore en nouant des relations étroites avec les gauchistes et en assumant publiquement ces relations. Vous le voyez, du moins je l'espère, ou alors je n'ai pas été clair. L'affaire du Dreni s'inscrit dans ce lent processus d'émancipation et d'affirmation politique et syndicale d'une fraction de la paysannerie de l'Ouest, dont l'une des manifestations contemporaines a pris le visage d'une zone à défendre, par exemple du côté de Notre-Dame-des-Landes. L'affaire du Dreni est ainsi une étape décisive dans le processus de rupture de l'unité syndicale paysanne autour de la FNSEA. La fracture se creuse et l'unité se rompt dans les esprits. Les paysans travailleurs prendront donc leur autonomie au début des années 70 et après moult péripéties donneront naissance dans la seconde moitié des années 80 à ce qu'on connaît aujourd'hui la Confédération paysanne. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire et je ne suis pas payé pour vous la raconter. Voilà. Gilda, donc on va avoir un échange et il va y avoir un micro-baladeur. Donc n'hésitez pas à vous en servir, à me tancer si j'ai dit des bêtises, n'hésitez surtout pas, ou apporter votre point de vue, votre éclairage ou votre témoignage.
Personne ? Cette conférence aujourd'hui où il y a plein de manifestations de paysans en France.
Oui.
Donc c'est pas fini.
Alors, le monde paysan, il est extrêmement morcelé parce que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, ça reste la FNSEA. Et en gros, ce qui leur pose vraiment souci, c'est qu'on veuille interdire l'utilisation des pesticides à proximité des maisons. Il faut toujours se méfier. Alors, j'ai trouvé un tract extraordinaire de la FNSEA de l'époque, qui datait de 20 ans, 30 ans, où il parlait d'agriculture verte, etc., tout ça. Le greenwashing ne date pas d'hier. Mais en effet, le monde paysan, il est en grande souffrance. On le sait concrètement avec, malheureusement, les suicides répétés de paysans en difficulté. Il y a aussi les petits paysans qui continuent à mourir à petit feu. L'accès à la terre qui est de plus en plus compliqué. L'accès aux prêts également. Enfin, c'est un monde qui subit de plein fouet la modernisation qui se perpétue et les projets hallucinants de fermes à 1000 vaches ou je ne sais quoi, etc., quoi. Donc, les problèmes évoqués par les paysans travaillant en 69 demeurent actuels. Et après, il y a une nouvelle génération de paysans qui arrive et qui essaie globalement de changer les choses. Donc, ils passent au bio, ils essaient de faire des circuits courts, etc. Ils savent que leur survie, en fait, c'est ça, quoi. C'est passer par la qualité. Alors, ça crée des niches, mais ça leur permet de vivre. Alors que si ils suivent le flot commun, entre guillemets, eh bien, ils vont être toujours poussés à surproduire pour arriver à survivre avec des salaires de misère.
Juste un petit rectificatif, c'est-à-dire que Olivier Guichard, quand il est parti de la ferme, il n'est pas retourné au Dreni. Il est parti avec la gendarmerie vers la boule. Et c'est pour ça que le maire se retrouvait tout seul en tenant son pantalon. Mais voilà, parce que le chapeau volait aussi. Et voilà. Donc, et il faut dire aussi que par rapport au Dreni, il en a été question juste un petit peu, mais il y avait paysans en lutte existait déjà. Oui. Et c'est souvent les agriculteurs, et puis, alors pas que les agriculteurs, parce que il n'y avait pas que des agriculteurs au Dreni, et qui faisaient des relations avec les ouvriers. Et c'est un peu eux qui avaient un peu poussé à ce que les paysans viennent. La section de Blain-Dreni avec Guinouette et Saint-Gilda-des-Bois étaient assez actifs.
Qui faisait partie de paysans en lutte dans le lot des militants les plus en pointe à l'époque ?
Je ne sais pas, je ne vais pas dire les noms.
Il y a prescription. Hein. Non.
Joseph Potiron en faisait partie.
Joseph, oui.
Bon.
tu n'as rien montré sur les journaux locaux.
Oui.
Et je trouve que ça manque un peu. Ouais. Je suis désolé de te faire des remarques comme ça.
Non.
Mais et on voit en particulier sur Ouest France du lendemain, le père de Mathieu Hamon qui est comme ça en face de l'école du Drainy, là sur la petite côte qui monte là, en sortant du bourg. Bon alors je me présente, hein, je suis Jean Ruault, je suis du Drainy et ce jour-là on jouait au foot. On jouait au foot, je sais pas contre qui, mais je jouais en cadet, j'avais 16 ans quoi. Et donc quand on est sorti des vestiaires, on est tombé sur... moi, je suis tombé là-dessus et j'ai suivi. Alors, je referai une remarque aussi sur le chapeau de Geffrio. Le chapeau de Geffrio, il a volé dès le départ entre le bourg et la ferme de chez Couedel. Il y a 500 mètres. Il n'y a pas plus de 500 mètres parce que pour aller chez moi, il y a un kilomètre. Donc... On est à peu près à la mi-distance. Donc j'ai pris quelques notes pendant tout ce que tu as dit. Effectivement, tu as signalé l'importance de Jacques Croquant.
Ouais.
C'est énorme. Moi, c'est la période à laquelle, par l'intermédiaire justement de ce film qu'on regardait vraiment, c'est la période où je me suis révolté. J'avais 15-16 ans là, et où j'ai considéré que ma situation de fils de petit ouvrier était une situation qui amenait à la révolte quand je voyais les autres, et en particulier, on va parler de Plessé, on peut parler effectivement des gens riches de Plessé, quoi. Donc par rapport, il y avait vraiment une opposition avec cette jeunesse riche. Alors ce que tu as dit sur Geffrio, c'est effectivement le notaire, c'est effectivement le maire, c'est effectivement quelqu'un qui est dans toutes les transactions et qui en a profité. Et je pense que Châtelier était le régisseur.
Oui, c'est ça, oui.
Et que si l'on est sur Plessé à cette époque-là, on est sur Plessé, on va à une ferme. C'est-à-dire que, en fait, la ferme d'Edouard Couedel, il est en fermage. Il est en fermage, Edouard Couedel. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on voulait montrer au ministre comment les propriétaires entretenaient mal. Les habitations en particulier, parce que l'habitation d'Edouard Couedel, c'était une ruine. Enfin, c'était pas pire que chez moi, mais c'était quelque chose de très 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 mal entretenu, très très mal entretenu par les propriétaires. Alors on est à l'époque où il y a encore justement sur Plessé, je sais pas si tu as regardé le nombre de châteaux qu'il y a sur Plessé. Donc on a Plessé, on a trois paroisses, on a la paroisse de Plessé, la paroisse du Drainy, la paroisse du Coudray. Et en point de vue de la répartition des fermes, on a les fermes de châteaux qui sont plus sur Plessé. Hein, et sur le Drainy et sur le Coudray, on est plus sur une ferme, sur des fermes de petits paysans propriétaires comme ma grand-mère qui avait 20 hectares, quoi. Voilà. Donc voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à ça. Sinon, tu as parlé de Bernard Lambert. Je crois que c'est vraiment un personnage important. Moi, je sais que je fais mes études à Ozanam, qui était l'école normale catholique. Oui. On l'avait fait venir, Bernard Lambert. On a passé une soirée avec lui. Et Bernard Lambert, la chose qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'il avait dit par rapport à l'utilisation de la casquette. Donc, il disait, quand on voit les paysans qui s'en vont à la coopérative et qui tiennent leur casquette dans la main comme un volant, eh ben, on voit qu'ils sont chez eux. Donc ça, c'est ce dont je me souviens. Je pense qu'il faut dire aussi que notre monde paysan est un monde de polyculture.
Oui.
Hein, c'est un monde de polyculture. Moi, je situe à peu près le troupeau à 8-10 vaches.
Oui, c'est de la petite exploitation.
C'est vraiment la toute petite exploitation. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, si je me souviens un petit peu quand même de ce qui s'est passé. Je suis tout à fait d'accord avec le départ d'Olivier Guichard. À mon avis, Olivier Guichard est reparti directement du côté de Garouette. Il n'est pas reparti au bourg.
D'accord.
Et je sais là où il y a un morceau du chapeau à Geffrio.
Je n'ai pas entendu.
Je sais là où il y a un morceau du chapeau à Geffriot.
C'est une relique, hein.
Oui, il avait pris d'ailleurs, j'y étais, hein, au, bon, il avait pris d'ailleurs du fumier, j'étais pas loin de lui, il avait pris du fumier dans le cou, qui avait été lancé à la fin. Le pharmacien, comment, Rabot, c'est ça ?
Rabreau,
c'était son suppléant. D'accord. Et il n'a pas parti avec Guichard, parce que c'est tout à fait un hasard, mais en revenant vers le bourg du Drainy, je me suis trouvé à côté de lui. On avait discuté sur une partie du parcours.
Vous étiez du Drainy, vous ?
Ah non, 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 moi je ne suis pas du Drainy. Je suis, si vous voulez savoir, je suis de Cosson.
D'accord. Non, non, parce que est-ce que après, l'affaire a fait beaucoup causer au Drainy ? C'est-à-dire que dans les semaines qui suivent, etc.
La population était réellement séparée en deux, ouais. Ceux qui étaient d'accord avec les manifestants et ceux qui étaient opposés. Mmh. Et en particulier, moi je pense que je dois encore avoir ça dans mes affaires, un espèce de tract qui avait été fait par les gens de l'AFN qui, eux, avaient trouvé qu'ils avaient été vraiment maltraités, quoi. Par ce qui s'était passé. Ils ont ressenti que c'était quelque chose contre eux, quoi.
Oui.
Mais ça a duré un certain temps, effectivement, mais avec des clivages importants. Mmh. Quoi.
Il y a eu aussi l'occupation de la ferme du Comte Armand aussi.
Ah, c'est en quelle année ça ?
Je ne me souviens plus, c'est plus tard.
C'est plus tard, oui, c'est bien. Ouais.
C'est après 75.
Donc ça, c'est dans le cas d'installation contre les accapareurs de terre, installation des jeunes paysans, etc. etc. Ouais. Et il y a eu l'affaire à... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce ici, à Paux. Paux, hein, on dit P-A-U-L-X. Hein, parce qu'il y a eu un peu la même chose, parce que je ne sais plus si... c'est quelqu'un qui a écrit une lettre en disant au préfet Vier, en disant... certes, vous trouvez ce qui est arrivé à M. Guichard inacceptable, je suis entièrement d'accord, mais moi, il m'arrivait la même chose, mais par contre, l'affaire n'a pas eu de débouché judiciaire. Hein, à mon sens, dit-il et écrit-il, s'il y avait eu un débouché judiciaire, eh bien, cette affaire-là, Audrigny, ne serait pas passée parce que les paysans auraient eu peur d'agir. Voilà. Donc, a priori, il y a eu aussi une sorte de séquestration, etc. Ça vous dit rien, ça, comme aventure ? Et c'est dans la même période quasiment.
Ce week-end-là, il y avait eu trois ministres,
oui,
qui avaient été détournés de leurs occupations.
Tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Sans que ça s'intègre dans un plan concerté des trois. Mais ça veut dire que c'est réellement une volonté de mettre les ministres au pied du mur, etc. Voilà.
Tout à l'heure, vous parliez du préfet Vier. Il faut savoir que le préfet Vier a été limogé, pour ainsi dire, puisque...
En 68.
Il est allé à la chasse et il avait interdit la chasse à la poule faisane. Et dans son coffre, ils avaient trouvé des poules faisanes. Voilà, quoi.
Enfin, Vier, il faudrait faire un livre sur Vier, parce qu'en 68, le ministre lui dit « Mon bon Jean-Émile, si vous pourriez prendre du repos ?» Non, attends, je confonds, est-ce que c'est ça ? Il lui propose de démissionner, hein, c'est ça. Hein. Il lui dit démissionner, il dit ce serait se déshonorer, donc il y a eu cette affaire-là. On a eu des préfets assez exceptionnels, il y a eu Rix en 55 et Vier en 68, et je confonds souvent les deux. Attends, Yvon.
Pardon. Non, juste pour signaler que Jean-Émile Vier a été, pendant la guerre d'Algérie, pendant un bon moment, il a été directeur des renseignements généraux. Il était extrêmement actif. Dans la répression, bien sûr. Oui.
Ouais. Ah non, mais c'est un personnage assez... Oui, c'est vrai.
Il paraît qu'il y a une chanson, de fête, qui traite entre autres de l'événement du Drainy, là. Et alors, tu as parlé de Hamon là tout à l'heure, quand on voit lancer quelque chose, là. Alors, c'est, comment il s'appelle, Martin Hamon, etc., etc. Et, Mathieu, oui, qui chante un truc à Remy, mais une chanson d'époque, entre guillemets, qui parlerait, parce que bon, c'est Pierre-Yves là, qui nous disait ça tout à l'heure, là, ouais. Qui, lui, c'est comme ça qu'il a connu le truc du Drainy, etc., etc., via la chanson de Hamon.
Tu veux y aller, tu veux la chanter, Michel?
Paysan debout, quelque chose comme ça, non, c'est ça?
Ah, bah, c'est bien.
C'est toujours bien, 201 nuits à Saint-Dolaire, armé de nos faucilles à couper ton maïs. Jacques était semblable, vous nous volez la terre. Vous ne ferez rien pousser qui ne sera coupé. Préparons nos fourches et nos fusils contre les cumulards et le rapport Vedel. Contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles paysans en lutte debout. Défions tous les seigneurs vivants de notre labeur. Relevons tous la tête, soyons tous les Jacques paysans en lutte debout. Sauvage les battus du côté d'Herbignac, sauvage aussi les gars du Gavre à Pontchâteau. Fini de travailler pour le ventre des cochons. Traquons vos sangliers, pillons vos chasses gardées. Préparons nos fourches et nos fusils contre les cumulards et le rapport Vedel. Contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles paysans en lutte debout. Défions tous les seigneurs vivants de notre labeur. Relevons tous la tête. Jacques, paysans en lutte debout. Ministre Guichard un jour vint au Drainy, lui qui voulait se montrer pris sa déculottée. Vous voulez liquider tous les paysans pauvres, vous les pourris de bourgeois, on vous étripera. Préparons nos fourches et nos fusils contre les cumulards et le rapport Vedel. Contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles paysans en lutte debout. Défions tous les seigneurs vivants de notre labeur. Relevons tous la tête, soyons tous les Jacques paysans en lutte debout. Préparons nos fourches et nos fusils.
Quelle année cette chanson ?
Non, c'est bon.
Elle est suite à ça. Immédiat, oui, d'accord.
Elle est dans les années 69-70. Hein.
D'accord.
Et qui chante ? Alors, là, c'est Mathieu Hamon qui chante, le fils là, des manifestants.
Hamon-Martin Quintet.
Voilà, c'est Hamon-Martin Quintet, oui.
Dans différentes configurations.
Ah oui, c'est une des plus belles voix, c'est une des plus belles voix de la Bretagne hein, qu'on a actuellement. Hein,
ouais. Ouais, avec la pancarte, ouais. Et qui est devenu Paul Rouleau a écrit des livres, hein, il était un peu conteur, hein, il a fait des spectacles.
Ouais,
voilà. D'autres questions ?
Son fils est toujours en ferme. Sur
Guingouette.
D'accord.
À la Beurdinguette.
Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. On peut s'en passer, vous savez. Par contre, je vous invite à noter qu'en mai prochain, le 5 mai, ouais, Henri et Yvon, ici présents, qui sont des adhérents du Centre d'histoire du travail, qui viennent travailler régulièrement chez nous, viendront faire une conférence ici pour le compte du Centre d'histoire du travail. Le sujet ?
Le sujet est l'affaire Guy Béziers.
Voilà. Pour sabotage, de fait.
Pour sabotage, mais d'une échelle qui circulait normalement. Enfin, bon, la loi était un peu
Et c'est une histoire très intéressante parce qu'on voit la complexité des relations entre le syndicalisme et la question algérienne, etc. C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc rendez-vous au mois de mai. Début mai. C'est dans le catalogue. Il y a le programme qui est là, donc vous le retrouverez. En tout cas, merci de votre attention et puis à bientôt pour une autre aventure.